01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio sans lieu ni maître de la Fédération anarchiste. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Jean-Luc Biton et de Jacques Rigaud.
Celle de Jacques Rigaud, elle est déjà...
Elle est déjà, oui.
Ou elle commence peut-être.
Oui, est-ce que c'est pas un mot qui lui convient, le mot carrière ?
Non, non.
Hein ?
Enfin, il a dit, j'ai toutes les ambitions à un moment. Et puis, Deligne plus tard, il dit le contraire, donc... Très contradictoire.
Il y a eu des biographies qui ont été faites récemment de Vacher.
Oui.
Il y en a de Cravant. Il y en a de Rigaud, puisque c'est Jacques Rigaud, le suicidé magnifique aux éditions Gallimard, Prévas, Annie Lebrun. Est-ce que ces trois personnes-là ne sont pas antinobistes de la biographie ?
Alors, Jacques Vacher, il y a des gens qui ont travaillé sur lui, comme Bertrand Lacarelle, qui avait fait un essai chez Grasset, je crois. Il a travaillé également sur Cravant. Il y a une espagnole, une auteure espagnole, qui a fait une biographie de Cravant assez complète. Sur Vacher, il manque encore une biographie, je trouve. On ne sait pas ce qui s'est passé, vraiment. Il manque encore une biographie, un vrai biographe.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas antinomiste de ce qu'ils ont été ? C'est-à-dire qu'il y en a un qui meurt à Vacher, je ne sais plus, à 20 et quelques, Cravant à 33, Rigaud, il meurt à 31, c'est ça ?
Alors, Rigaud meurt à 30 ans. Et alors, j'ai mis en exergue de la biographie, justement, une citation de Jacques Rigaud. « Il serait commode d'être mort pour écrire une autobiographie. » Voilà. C'était sa façon un peu de retourner le sujet.
Jacques Rigaud, quand on regarde, on demande aux gens... Jacques Rigaud, il nous cite toujours un livre, celui de 1018, publié, c'était Les Trois Suicidés de la Société, Cravant, Rigaud, Vacher. Et ça avait été organisé par José Pierre, je ne sais pas si ça vous dit, là.
Oui, oui,
et j'avais dit à José Pierre, vous ne trouvez pas que ce titre est absolument déplorable, et j'ai employé un autre mot. Hein. Il m'a dit, je ne suis pas assez abruti pour avoir donné un titre comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez
Alors, Les Suicidés de la Société, c'est vrai que ça fait c'était bon, ça fait référence à Artaud, évidemment, mais c'est vrai que personnellement, je trouve ça un peu gavoldé, on va dire, parce que c'est...
Racoleur
c'est, oui, un peu racoleur, un peu... parce que bon, Rigaud s'est pas suicidé à cause de la société.
Oui, bien sûr. Cravant non plus.
Cravant non plus, Vacher non plus.
Vacher, on ne sait pas au juste ce que ça peut être. Hein.
Vacher, oui, un suicide accident. Ouais. On ne sait pas trop. D'ailleurs.
Ce sont trois morts différentes parce que Cravant, c'est une énigme.
Exact.
Vacher, on ne sait pas, c'est une problématique.
Le seul vrai suicidé, c'est Jacques Rigaud.
C'est lui qui est arrivé. D'accord. C'est lui qui est arrivé. Je ne vous ai pas présenté Monique en technique. Alors sans Monique, on ne peut rien faire. Alors elle m'a fait beaucoup souffrir cette semaine. Ah. Elle a joué avec mon cœur. Je lui ai envoyé des SMS absolument convenables, mais vraiment très convenables. Elle pourra en témoigner hors antenne. C'était un private joke. On parle de la mort. On est forcé de parler de la mort avec Rigaud. On ne peut rien faire. Ça commence par le cimetière de Montmartre. Exact. Après une préface d'Annie Lebrun, très bien, d'ailleurs très belle, on la salue. Ça commence par le cimetière de Montmartre. Alors, outre Dalida au cimetière de Montmartre, il doit y avoir Sacha Guitry.
Philippe Soupeau, un grand ami de Rigaud.
Voilà, Stendhal.
Stendhal, c'est qui encore ? Daniel Darc.
Daniel Darc. Alors, regardez bien, vous rentrez au cimetière de Montmartre.
C'est ça.
Comment on accède à la tombe de Rigaud, où il y a...
Alors, dès que vous rentrez par la porte d'en bas, la porte principale, hein, vous allez à gauche, après la conservation, tout de suite à gauche, vous prenez la grande allée de gauche, et là, vous filez tout droit, vous continuez tout droit, une sorte de tunnel comme ça.
Ah, c'est
entre,
sous
entre deux murs, entre
faut
deux
passer
murs.
Le tunnel.
Faut passer le tunnel.
D'accord.
Vous passez sous le pont.
D'accord.
Et ensuite, c'est sur la droite, vous comptez à peu près, il y a trois tombes, et c'est la deuxième tombe, je crois.
C'est une tombe abandonnée ou...
C'est une tombe abandonnée.
Terrible.
Je m'en suis rendu compte parce que j'ai demandé au conservateur, justement, d'avoir l'adresse des ayants droit, des propriétaires de la concession. Et en fait, ma lettre est revenue avec un NPAI, n'habite plus à l'adresse indiquée. Donc, en fait, il n'y a plus personne qui s'occupe de
ça. Il n'y a plus personne qui s'occupe de la...
De la tombe de Jacques Rigaud. Et il est enterré, d'ailleurs, avec il est enterré avec des gens de sa famille, mais aussi avec une comédienne qui fut célèbre et je crois qui est complètement dans l'oubli aujourd'hui.
Et c'est
qui est, j'ai un trou. Marcel Chantal. Voilà. Oui. Marcel Chantal, elle a fait 30 films, elle a tourné avec...
Elle est dans le même caveau.
Elle est dans le même caveau. Dans le même caveau.
Et pourquoi, c'était pas...
Alors, elle a un lien de parenté avec la tante de Jacques Rigaud qui l'aurait adoptée. C'était une enfant naturelle. Il y a une histoire comme ça, quoi.
D'accord. Alors, puisqu'on est dans le phénomène des tombes, il y a un livre qui vient de sortir sur le docteur Frankel. Ça vous inspire, le docteur Frankel ?
Tout à fait.
Il est dans l'histoire du surréalisme. Hein.
Bah, Théodore Frankel, c'est un personnage fascinant aussi. Très discret, hein, qui était un peu aussi... beaucoup plus discret que Rigaud.
Alors, il y a un livre qui vient de paraître, c'est Un éclair dans la nuit de Gérard Guégan, je crois que vous l'avez lu, non ?
Je ne l'ai pas fini encore, je l'ai commencé.
D'accord.
Et c'est très intéressant, parce qu'il y a peu de choses sur Frankel, hein. Il y a peu d'ouvrages sur Frankel. Donc
il y a aussi un 320 pages, là, hein, c'est aux éditions, je ne sais pas où, l'Olivier, c'est ça ?
Exactement,
l'Olivier. Alors, on va revenir à Rigaud et comment on disparaît. Hein. Dans le livre, bah, je crois que c'est Guégan qui parle, il dit « Pas d'obsèques, pas de cérémonie. Pas de raison et pas de tombe. Je ne veux personne et j'exige la fosse commune, point final. »
C'est ce que disait, ce qu'a écrit Frankel, exactement.
Ouais.
C'est ce que
bien,
voulait Frankel. Ouais, ouais. Il a fini d'ailleurs, enfin je ne sais pas s'il a fini à la fosse commune, mais je crois que quand même il a une tombe.
Alors il n'y a personne à son enterrement, ni Breton ni Aragon.
Ouais.
C'est pareil, là. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a tout un travail derrière, puisqu'il a refusé de rejoindre les staliniens et le Parti communiste, hein, faut quand même le dire. Et il y a tout un travail sur la psychiatrie qu'il a fait. Hein.
Complètement.
Donc c'est pas n'importe qui. Hein.
Et il a été le médecin des surréalistes et des dadaïstes.
Ben, voilà.
Il a soigné Rigaud et Mireille Havet, d'ailleurs, la poétesse Mireille Havet, qui était toxicomane également.
Et ils sont tous toxicomanes.
Ils n'étaient pas tous toxicomanes. Breton n'était pas toxicomane. Mais Mireille Havet, il y avait toute une bande de toxicomanes dont faisait partie Jacques Rigaud. Et Théodore Frankel, a apaisé leurs maux. Voilà.
C'est Rigaud avec un T, hein ?
Avec un T, exactement. Parce qu'il a souffert de ça toute sa vie, parce que son prof de français voulait persister à écrire son nom avec
même
un
ses
D.
Même ses amis lui écrivent avec un D.
Même Paul Éluard a fait un poème, a écrit un poème avec Rigaud avec un D.
Alors, moi j'ai lu avec grand intérêt cette comédie d'Annie Lebrun, on dirait un thriller, parce que on suit ça, comme ça. Et j'ai un très très mauvais esprit. Et j'ai un tort énorme, et alors là, vous allez me dire si c'est important, pas important, et je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, et vous allez vous débrouiller avec, hein, je ne vais pas le savoir. Mmh. Bon, j'avais un éditeur, c'était Guy Chambellan, rue Racine, qui marchait à 6 litres de vin par jour, j'appelais le vinocéphale de la rue Racine, qui un jour m'a dit, tu comprends, l'époque est telle que maintenant, avant de consulter le texte qui nous arrive, on connaît la gueule du type qui l'a envoyé. Mmh. Et il se trouve... qu'à cause de la couverture du livre, là, j'ai fait toute la lecture de ce Jacques Rigaud en pensant à Maurice René, en pensant au Feu Follet.
Ah oui, ah oui, oui.
Alors normal. Déjà, c'est la première phase. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est normal. Moi, j'ai commencé cette biographie, le Feu Follet, le film Le Feu Follet, c'est ce qui a déclenché mon envie de faire une biographie de Jacques Rigaud. C'est grâce au Feu Follet de Louis Malle que j'ai rencontré Jacques Rigaud. Après, j'ai su que c'était un livre, une adaptation du livre de Drieu-La Rochelle. Après, j'ai lu le livre de Drieu, et ainsi de suite. Mais c'est par le cinéma que je suis arrivé à Jacques Rigaud.
Donc j'ai lu... Ça fait 15 ans de biographie.
15 ans, oui.
C'est pas dangereux de faire une biographie de 15 ans sur un être aussi, en fin de compte, destructeur. Il y a de la destruction de Rigaud.
On va vous passer par toutes les étapes. Hein. Il y a des étapes de découragement, évidemment, quand vous trouvez rien, quand vous travaillez des mois et des mois pour avoir une information. Non, il faut être persévérant.
Oui, mais vous-même, pour votre équilibre psychique, là, c'est quand même le monde de l'alcool, c'est quand même le monde...
Bah, je ne me suis pas identifié, on va dire, complètement voilà. À lui. Il n'y a pas de phénomène d'identification. En revanche, c'était quelqu'un avec lequel j'ai vécu pendant 15 ans. C'était comme un ami. J'étais attaché à lui. J'étais attaché au point qu'à la fin, je n'avais pas envie de le faire mourir. Hein. J'avais envie de faire durer.
C'est bien.
J'avais envie de le faire durer. Je n'avais pas envie qu'il meure.
Et maintenant que c'est fini, alors...
Il faut faire le deuil.
Il y a un trou.
Il y a un deuil à faire. C'est vrai.
Il y a un trou.
Bah maintenant, j'essaye de passer un autre livre rapidement, un autre écrivain. Mais ce ne sera pas une biographie.
J'avais fait une émission un jour avec Yves Buin. Je ne sais pas si ça vous inspire, Yves Buin. Et je lui avais dit, il avait fait une grosse biographie, je ne sais plus de qui, de Kerouac. Et je lui avais dit, lorsqu'on fait une biographie, on aime forcément celui avec qui, sur lequel on travaille. Hein. Il m'a dit, oui, c'est forcé. Et j'ai rencontré, moi, qu'une seule biographie qui a été faite de 800 ou 900 pages. Alors, vous êtes jaloux, là. Je ne sais pas, il fait 540. La vôtre, quelque chose comme ça, de 800 pages. C'est une biographie sur Brecht,
d'accord,
qui a été certainement payée par la CIA,
ah ouais,
et qui est une destruction systématique du personnage.
Ah. Oui, c'est pas une hagiographie, c'est le contraire d'une hagiographie.
Une destruction systématique. Mais alors, je vais revenir à mon idée, là, parce qu'il y a quand même quelque chose d'idéologique derrière. Là. En songeant à Maurice René. Oui. Maurice René apparaît dans le cinéma en 60, 64, c'est ça. C'est le personnage souple, romantique, qui est revenu de tout, et qui est aussi revenu de la guerre d'Algérie, souvent.
C'est vrai.
Hein, et on s'aperçoit que le film de Louis Malle, est salué par qui ? Est salué par les hussards, par les gens de la table ronde, les gens d'extrême droite, c'est-à-dire Déon, Blondin, et j'en oublie un, aidez-moi, Nimier. Mmh. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas parlant, ça ? Est-ce que la fissure, quand on sait que c'est écrit par Drieux, qui lui-même a une position fasciste ouvertement, est-ce qu'il n'y a pas une fissure,
La politique et le cinéma, on connaît tous, hein, avec Louis Malle, et la Nouvelle Vague n'aimait pas Louis Malle, parce qu'il considérait Louis Malle comme un réalisateur de droite. C'est pour ça que d'ailleurs que Louis Malle est parti aux États-Unis à un moment, parce que toute la Nouvelle Vague était forcément de gauche, et Louis Malle n'était pas aimé par la Nouvelle Vague. Alors c'est vrai qu'il fait référence, d'ailleurs il y a une scène très, très belle avec Maurice René à la terrasse du Fleur, où il y a des gens de l'OS qui sont joués par Raymond Bouteille, et il fait référence à la guerre d'Algérie à ce moment-là, quoi. Mais c'est vraiment une petite référence, et voilà, pas Drieux, Rigaud. Quand Drieux et Rigaud étaient ensemble, Drieux n'était pas encore dans la politique. Hein. Mmh. Rigaud s'en foutait de la politique. Il aimait bien, en revanche, puisqu'on est sur Radio Libertaire, sa première lecture, quand même, son écrivain préféré qu'il aurait aimé rencontrer avant qu'il ne meure, c'était Octave Mirbeau. Écrivain anarchisant.
Ouais.
Voilà.
Très beau texte, entre parenthèses, avec des positions très dures.
Oui, exactement.
Des positions très dures. Hein,
Courteline aussi. Rigaud adorait Courteline. Mmh.
Oui. Mais je veux dire que cette fêlure, puisqu'on parle à un moment donné de Fitzgerald dans votre livre, hein, mm-hmm. Et c'est très drôle parce que vous dites peu de gens ont vu le rapport avec Fitzgerald.
C'est vrai.
Moi, je le promène tout le temps.
Oui.
Voilà, ça me paraît d'évidence. Vous savez qu'il y a un texte de Fitzgerald qui s'appelle La fêlure.
Oui, bien sûr.
Il s'appelle La fêlure. Ouais. Et je me dis, ce glissement de Drieux vers le fascisme, mm-hmm. Je m'interroge. Alors, est-ce que c'est absurde ou pas ? Est-ce que Rigaud, s'il avait continué à vivre, puisque vous voulez l'avoir fait vivre, est-ce qu'il n'avait pas en lui les prémices d'une pareille fêlure ? Si c'est absurde, vous me le dites, hein,
oui,
on passe à autre
chose. Je sais pas, vraiment, je ne peux pas vous dire si... je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un livre sur Cravan, qui était Arthur Cravan, n'est pas mort noyé. C'était une sorte de comment on appelle ça, du chrony, c'est
ça ? Du chrony, oui.
Hein, et c'est... Tout est possible avec une uchronie, mais là, Rigaud, je sais pas, je pense pas qu'il aurait basculé dans la politique. C'était pas le genre. Il adhérait à rien. D'ailleurs, il a pas adhéré au surréalisme. Hein. Il a participé à Dada.
Ça, on va le voir. Oui. On va revoir ça. Mais il meurt en 1929.
Alors c'est symbolique. Hein.
C'est symbolique.
Crac boursier.
Voilà, c'est la grande dépression.
La fête est finie, quoi.
C'est la grande dépression. Il y a ça. C'est quand même qu'il est quand même. J'ai envie de dire. Vous savez, Cravan disait qu'il était le bébé d'une époque.
Ah oui, c'est la mort de Rigaud, c'est un peu une sorte de dommage collatéral du crack boursier. Hein,
oui, c'est ça.
Lui, il était aux États-Unis, il revient à Paris, il vient de mourir. Donc voilà, tous ses amis sont exilés, ont perdu leur fortune, il n'a plus d'appui, sa femme, il s'est séparé de sa femme. Donc c'est voilà.
Riche américaine.
Riche américaine.
Et moi, j'y pensais là, parce qu'on est quand même le 22 mars, là, on est historiquement, je sais pas, c'est le 22 mars. Si on lit Rigaud, il est complètement au-delà des morales d'aujourd'hui, parce qu'on parlait du féminisme hors antenne, là. Quand on lit les lignes du roman d'un jeune homme pauvre...
Ah, complètement, il n'est pas politiquement correct, ça c'est sûr.
Voilà, si on lit ça... attendez, je l'ai sous les yeux, là, il y a un moment donné, jeune homme pauvre, médiocre, 21 ans, main propre, épouserait femme 24 cylindres, santé érotomane ou parlant l'anamite. Il donne son adresse à... Mais une femme, une bonne féministe bon cru qui lit ça va bondir de sa chaise.
Tout à fait. Enfin, une féministe d'aujourd'hui, on va dire.
Voilà, elle va rebondir de sa chaise.
Une néo-féministe. Mais, et d'ailleurs, au procès Maurice Barrès aussi, quand on l'interroge au tribunal, enfin le tribunal factice, on va dire, il dit comment vivez-vous, monsieur Rigaud ? Il répond macrotage, parasitisme.
Complètement dehors de tout, bien sûr. Il est anti-travail.
Anti-travail.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans ça ? Ça va être des petits...
De toute façon, il décrit dans ses textes, à un moment, il dit... Il fait un peu la liste de comment s'en sortir sans travailler. C'est un peu ça. Et il dit, il y a trois choses, en fait. Il y a l'héritage, les jeux, les courses, le poker, ou une femme riche.
Donc, il y a ça qui le rend complètement dehors de la morale du temps. Et puis, il y a aussi son Agence Générale du Suicide. Puisqu'il y a quelques années, vous en parlez dans votre livre, Claude Guyon va publier son Suicide mode d'emploi. Exactement. Il va avoir des ennuis.
C'est le seul livre, je crois, dans l'histoire d'édition française qui a été interdit, et qui est encore interdit. Et si vous voulez le consulter à la Bibliothèque nationale, il faut faire une demande auprès de la direction de la BN.
Hein. Oui. Donc, il est en dehors des morales.
Disons qu'il n'est pas immoral, il est plutôt amoral.
Amoral.
Ouais.
D'accord. Alors j'ai fait lire votre livre à quelqu'un qui l'a lu, ça y a bien plu comme ça, et il y a quelques lignes qui l'ont mis hors de lui.
Ah.
En me demandant où vous avez trouvé ça.
D'accord.
Donc je vais vous les lire, et après on va écouter un peu de musique et puis on va plonger dans Rigaud. D'accord.
Plaisir.
Alors, quant aux deux principaux instigateurs du procès Aragon et Breton, ils étaient paradoxalement d'admiratifs et fervents lecteurs des œuvres de jeunesse de Barrès. Pour Aragon, il est un extraordinaire ouvrier de la prose française, tandis que Breton, adolescent, confie à Théodore Frankel que du sang, de la volupté et de la mort, vous l'avez lu ?
Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté en poche.
Je vais vous dire, il ne faut pas le dire sur Radio Libertaire, mais c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Hein. Était peut-être le plus beau livre de Barrès. Une fidèle admiration... Alors, c'est là. En 1917, Breton demandera à Barrès de préfacer les lettres de gare de Vacher. Alors, où c'est que vous avez trouvé ça ? Attends, je vous le dis, après vous répondez. C'est très grave, parce que si Breton a vraiment demandé à Barrès de préfacer les lettres, il va refuser. Hein.
Oui.
Voilà, c'est quand même très grave, puisqu'il y a le procès Barrès 2 ans plus tard.
Hein. Exact. Ouais. Alors, je sais, tout est sourcé normalement dans mon livre, donc il n'y a pas une petite note qui...
On va regarder.
Normalement, tout est sourcé, il y a 200 pages de notes. Donc,
vous aviez déjà entendu parler de ça ou pas, vous ?
Moi, non. J'ai probablement trouvé ça dans un livre sur Breton, peut-être dans la biographie de Breton, publiée par Polizetti.
Ben non, il n'y a pas... il y a peut-être une note. On va regarder, on va écouter de la musique et puis on va regarder s'il y a une note là. Parce que là, oui, il y a une note. On va regarder ça de plus près, comme ça. Parce que si c'est ça, c'est très grave. C'est très grave, ça veut dire que c'est un retournement total de veste de la part de Breton en l'espace de 2 ans.
Mais les Dada aimaient bien Barrès, en fait. Ils aimaient bien Barrès, le Barrès jeune, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disaient, le Barrès du début. Et c'est après l'autre Barrès à qui ils ont fait un procès.
Auquel Rigaud participe.
Eh bien, évidemment, il est cité comme témoin.
Mmh. Donc voilà, je vais chercher la note et puis on va quand même raconter ce que c'est que c'est Jacques Rigaud avec un T Monique.
Thank you.
Eh oui, au 01 43 71 89, avec quelques notes, Monique d'Edgar Varey. Je sais que c'était dur à passer à l'antenne, mais on est quand même parvenu loin. Wow, c'était une note de Marguerite Bonnet, c'est ça?
Exactement, c'est... sur le livre qu'elle a écrit sur l'affaire Barrès.
C'est fait. Fiable?
Ah oui, complètement. D'accord. Marguerite Bonnet, c'est une chercheuse émérite.
D'accord.
Toute confiance.
Donc on parle de celui qui voulait être un grand mort, ou qui aurait été un grand mort, de l'étalon raté aussi.
Oui, hein,
et puis aussi de l'homme sans nombril. C'est quelqu'un qui, au départ, va vouloir se...
Il n'a pas d'origine.
Pas d'origine, ouais. Mais il en a.
Alors, il en a, ses parents. Parents qui étaient... Donc, il est né boulevard Raspail, hein, dans le 14e, pas loin du Bon Marché, où travaillait son père. Son père était inspecteur, chef inspecteur au Bon Marché. Et sa mère ne travaillait pas, il vivait d'un subside d'un petit héritage. Et en fait, c'était la petite bourgeoisie.
Voilà.
C'était pas la grande bourgeoisie, c'est la petite bourgeoisie de l'époque qui se rêvait grande bourgeoisie, en fait. Donc il a souffert de ce milieu familial un peu étriqué, finalement, qui était beaucoup moins excentrique que la grande bourgeoisie, moins éclairé aussi. Et lui, il a rejoint, en fait, la grande bourgeoisie avec des amis très connus, des industriels, des portraitistes, des mondains de Paris, Jacques-Émile Blanche, il a été le secrétaire de Jacques-Émile Blanche, par exemple.
Il va vivre très rapidement dans le monde mondain.
Alors, c'est ça. Il rentre dans le monde mondain par Jacques-Émile Blanche. D'abord, il est le secrétaire de Abel Hermond, c'est marrant. Abel Hermond, on l'appelait Abel Hermond.
Abel Hermond.
Et après, très vite, il trouve ce job de secrétaire chez Jacques-Émile Blanche. Et Jacques-Émile Blanche, évidemment, était un grand mondain, puisque c'était le portraitiste de Marcel Proust, de tout le monde, de Gide. Enfin, c'était le peintre des mondains. Donc, il rencontre tous ces gens-là chez Blanche. Et même, il organise des repas, etc. Il rencontre Paul Valéry, il rencontre tout le milieu littéraire de l'époque chez Jacques-Émile Blanche, qui était un peu son père, finalement, adoptif, on va dire.
Mais on s'aperçoit, à vous lire, que tout ce monde, le monde surréaliste, qui va devenir, après, un monde révolutionnaire, parce qu'il va y avoir des positions politiques, est quand même dans la mondanité.
Oui. Alors, bon, Breton, c'est un fils de gendarme. C'était pas la grande bourgeoisie. Hein. Mmh.
Non, mais je dis, dans le monde dans lequel il tombe, c'est-à-dire qu'il y a des, j'allais dire sponsors, c'était pas le terme de l'époque, il y a des mécènes.
Oui, il y avait quand même des mécènes, c'est vrai. C'est des gens qui apportaient leur maison. Enfin, je veux dire, l'été, ils passaient chez la baronne Double, par exemple, Jeanne Double. Il y avait aussi, comment ça s'appelle, Marchenal, qui a le tableau de Picabia, L'œil cacodilate, c'était chez Marchenal.
Ils sont en rapport, par exemple, avec les actrices de la Comédie Française.
Julia Dartet.
Voilà, c'est quand même des gens officiels. Ils passent par une officialité, je veux dire.
Complètement. Mais alors, c'était des milieux qui étaient, à l'époque, perméables, en fait. Aujourd'hui, ça n'existe plus, hein. C'est complètement différent. Mais Rigaud rencontre Dada, en fait, grâce à Simone Kahn, qui va être la première femme, qui sera la première femme de Breton, en fait. Et il la rencontre, il fait une sorte de fac de droit. Enfin, à l'époque, ses parents ne savent plus quoi faire de lui. Donc, après la guerre, qui est quand même importante aussi pour tous, on en parlera aussi.
Il est engagé volontaire.
Alors lui, il est engagé volontaire parce qu'il a même pas, il est encore mineur, donc il a besoin d'autorisation parentale. Et il s'engage volontairement à la première guerre de 14-18. Et alors, l'avantage de s'engager volontairement, c'est qu'on pouvait choisir son corps d'armes, ce qui pouvait sauver sa vie quand même. Donc, parce que ceux qui étaient appelés, ben, ils allaient directement au front, dans les tranchées.
Donc il est planqué.
Alors, il n'est pas planqué. Alors il le dit d'ailleurs,
il s'en vante.
Parce que c'est le côté provocateur de Jacques Rigaud quand même, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il s'en vante au procès Maurice Barrès. Il dit qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre. Il dit j'étais un embusqué. Ce qu'on appelait les fameux embusqués, ceux qui étaient pistonnés, qui échappaient aux tranchées, etc., qui étaient à l'arrière. Et lui, il était à l'arrière, mais en fait, il n'a pas été vraiment pistonné. Il a choisi son corps d'armes parce qu'il s'est engagé volontairement. Donc, il était à l'arrière-front, on va dire.
Il n'a pas le traumatisme qu'a eu Breton et Aragon par...
Alors si, parce qu'ils ont tous été traumatisés, en fait. Parce qu'il y a un moment, il a été quand même un peu bousculé, même à l'arrière-front. Et surtout, il a perdu un de ses meilleurs amis, Maxime-François Poncet, qui est tué pendant la guerre de 14-18, comme Drieu a perdu aussi un de ses meilleurs amis. Tous perdront finalement des amis. Quoi. Et ça les marque de façon durable. Soupault, c'est pareil. Donc c'est quelque chose, c'est un vrai traumatisme. Et d'ailleurs, c'est sur ce traumatisme-là que Dada finalement se fonde.
Se fonde et devient international.
Exactement. Et ça commence à Zurich pendant la guerre. Quoi, avec tous les exilés, Tsara, etc., qui étaient exilés là, à Zurich.
Donc il va se mêler à toutes les activités Dada.
Exactement.
Quasiment. Alors, il va même être maître un des personnages principaux.
Oui, un membre exemplaire d'une bandada.
Oui, ce qui est tout dire. Oui.
Et il participe à toutes les manifestations, quasiment toutes les manifestations, les plus grandes manifestations du monde dada. Il signe les tracts dada. Alors c'était un peu, il avait un rôle presque démoralisateur au sein du mouvement dada. Certains même l'ont dit qu'il serait un peu une des causes du déclin du mouvement dada, parce qu'en fait, il était plus dadaïste que les dadaïstes. Hein. Le poète Gabriel Pomeran, qui sera lettriste, qui se suicidera aussi, lui, dans les années 70, avait dit de Rigaud, il a ébloui les éblouisseurs. Mmh. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une sorte de cheval de Troie du mouvement dada, parce qu'il poussait les dadaïstes jusque dans leur dernier retranchement.
Il est, tout à l'heure, je parlais du bébé d'une époque, c'est un dandy, c'est-à-dire que tous ces gens-là sont des dandys.
Alors, lui, c'était c'était celui qui était le mieux habillé, quand même. Ouais. De toute la bande dada, il était toujours tiré à quatre épingles, costume trois pièces, cravate. C'était l'avant-garde, même au niveau de la mode vestimentaire. Là, sur la photo que j'ai mise sur la couverture du livre, on le voit, il a des lunettes noires. La photo était prise en 1921. Les lunettes de soleil n'existaient même pas à l'époque. Hein. C'était pas un accessoire de mode. C'était quelque chose pour les alpinistes.
Mais pour venir qu'il est le dada au niveau de l'extrémité, ce dandy, c'est la culture du moi, c'est très baudelairien, ça. C'est en même temps l'admiration de soi-même dans le miroir, mais sa propre négation.
Oui, il y a un côté nihiliste.
Oui, complètement.
Dans le dandisme, évidemment. Et il rejoint Fitzgerald aussi, c'est ça.
Ça, c'est très proche, oui.
Et il fréquente d'ailleurs les mêmes gens à New York, quand il sera à New York, il fréquente les mêmes milieux que Fitzgerald.
Il se rencontre ou pas?
Je pense qu'ils se croisent.
D'accord.
À un certain moment, en 28, il va à une fête à New York, c'est vraiment la fête de l'année, dans un loft de 500 mètres carrés, et Fitzgerald doit venir avec Zelda, et il est invité, et ils ne viendront pas, ils étaient à Long Island, ils sont pas venus. Mais ils devaient venir. Et Rigaud est là.
Mais à vous lire, on s'aperçoit de deux choses à vous lire, que cette minorité dada, ça a quand même un retentissement énorme.
Bien sûr, oui.
Parce que ça ne pourrait pas exister aujourd'hui.
Non. Alors, aujourd'hui, il y a l'auteur Grell Marcus, américain, qui a fait un parallèle entre le mouvement dada et le mouvement punk.
Et le punk, oui.
Et il n'a pas tort, parce que c'est un mouvement très éphémère, dada. Ça dure quoi? Trois ans maximum.
Ans,
ouais. Comme le mouvement punk. Et à ce côté un peu. Et d'ailleurs, quand les textes de Rigaud, le premier texte de Rigaud, il dit « Je suis l'antéchrist. Mmh. Et j'ai un entonnoir sur la tête. » Il y a un côté comme la chanson des Sex Pistols, « Je suis un antéchrist.
» Et on s'aperçoit que tout le monde se croit. Même des noms comme ça, et qu'on va retrouver dans l'histoire, parce que, l'histoire à cause de Drieu d'ailleurs, on croise Malraux, on croise des gens comme ça, on croise même Mauriac, c'est-à-dire qu'il est même en contact avec des gens comme ça.
Oui, en fait, il y a une certaine frange du milieu littéraire de l'époque qui sont il y a des gens qui sont contre Dada, hein, qui les insultent, hein, les conservateurs, on va dire, de l'époque, détestent les dadaïstes, évidemment, c'est les traites de sales métèques, parce qu'ils viennent de tous les pays, Tsara, Roumain, donc il y a une sorte de haine de la presse, on va dire, conservatrice envers Dada. Et ensuite, il y a des gens qui les regardent avec intérêt, avec sympathie, certains les trouvent un peu potaches, on va dire.
Il y a un côté baudelairien chez cette culture du moi. Je me regarde, oui, cette élégance, regarder dans le miroir, etc. Il y a quelque chose.
Alors, sur la poésie, Rigaud, il y a un moment, il parle de Rimbaud. Il a lu Rimbaud. Il a lu Rimbaud parce qu'il le cite, et il fait même un pastiche de Rimbaud sur la quand il est écrit, je ne sais plus dans quel texte, et il dit « Ah voilà, j'ai trouvé un jour ma chemise assise sur mes genoux, je l'ai appelée beauté, je suis depuis un peintre de chemise. »
Ça, c'est très beau, ça.
C'est magnifique.
C'est très beau. Mais moi,
c'est un hommage à Rimbaud.
Moi, j'avais pensé à autre chose, parce que quand dans Saison en enfer, Rimbaud dit « Nous ne sommes pas au monde », lui, il écrit « Qu'on ne vienne pas me mêler à mes histoires ».
Oui.
Il y a un décalage par rapport au monde.
Et d'ailleurs, la biographie de Rimbaud et de Rigaud se rejoignent dans le sens que Rigaud cesse d'écrire, enfin il ne cesse pas d'écrire, mais il cesse de publier, comme Rimbaud d'ailleurs. Et Rimbaud part en Abyssinie, Rigaud part à New York. C'est à ce moment-là qu'il arrête de publier.
Quand je parlais, Jean-Luc Huitton, quand je parlais du rapport au miroir et de Baudelaire, on ne peut pas nier que le miroir n'ait pas une importance capitale dans l'œuvre, dans la vie de Rigaud.
C'est quasiment...
Il y a quand même ce phénomène. Allez-y, on est en 24.
Il est sur Long Island, dans une villa d'un de ses amis.
Ça se passe aux États-Unis.
Ça se passe aux États-Unis. D'accord. En juillet 24. Et en fait, il est en train de jouer aux cartes. Il adorait jouer aux cartes, faire des réussites seul. Et à un moment, il lève la tête. Il voit un miroir en face de lui. C'est pas vraiment un miroir. C'est une sorte de porte-fenêtre avec un truc sans teint comme ça. Il se voit dedans et littéralement, il se jette dans le miroir, quoi. Et il saigne, hein, il a des bouts de verre sur le front. C'est vraiment une expérience, on va dire, presque initiatique. Parce qu'à ce moment-là, il crée son personnage, le fameux Lord Patchogue.
Alors voilà.
Il devient Lord Patchogue, en fait. Il tue Jack Rigaud. C'est une sorte de suicide, pré-suicide. Hein. Ça annonce son suicide.
Vous dites initiatique, mais c'est très psychanalytique. Hein,
complètement. Et le miroir, c'est.
Voilà, le miroir, c'est. Puisque Lacan a exploité ça.
Il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet.
Oui.
Et donc, il tue Jack Rigaud, il se retrouve derrière le miroir, en fait. Il ne sort plus du miroir. Il est Lord Patchogue. Et d'ailleurs, il s'est même fait faire des cartes de visite au nom de Lord Patchogue.
C'est quoi ce nom, en fait?
Alors, Lord Patchogue, c'est une petite ville où Rigaud est passé, sur Long Island. C'est un peu, moi j'y suis allé, c'est vraiment une petite ville américaine qui n'a pas grand intérêt.
Il trouve ça l'idéal, non?
C'est ça? Et en fait, il fait une sorte Lord, c'est le seigneur. Patchogue, c'est quelque chose de petite ville sans intérêt, donc c'est le seigneur de nulle part, quoi. C'est un peu ça. C'est l'aristocrate du néant, de rien. C'est ça qu'il a voulu jouer.
Et là, on est en 24.
Et là, on est en 24.
On est en 24. Et je suppose qu'il a déjà rencontré Drieu.
Alors, il a rencontré Drieu très jeune, en fait. Ils se sont rencontrés.
On va faire un tout petit peu de musique et puis on va plonger quand même. C'est quand même Rigaud et Drieu. J'ai envie de dire aussi Rigaud, Drieu, Aragon aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une fille, quelque chose qui passe. Hein. Qui passe, qui est indéniable.
C'est l'amitié inachevée, j'appelle ça.
Voilà, on va voir ça. Monique, venant de pousser des cris de haine en cabine à cause d'Edgar Varèse au 01 43 71 89 40. Oui, alors on arrive là à ce qui est fondamental, c'est la rencontre avec Drieu. Parce que si jamais Drieu n'avait pas été là, n'avait pas existé, peut-être que la vie de Rigaud aurait été bien différente, non?
Oui, Rigaud doit beaucoup à Drieu. Pour exister, on va dire,
en bien ou en mal
Je crois plutôt en bien, en fait.
Ah, hein. D'accord, oui.
Parce que c'est grâce à Drieu qu'aujourd'hui on parle de Rigaud, sinon on n'en parlerait plus, je pense.
Mais je parle de ce qu'ils ont vécu ensemble, c'est-à-dire, là on a parlé en antenne, vous m'avez dit, c'est les amitiés, comment on m'appelait ça?
L'amitié inachevée.
Inachevée, oui.
C'est ça. Bon, parce qu'il y avait une amitié presque amoureuse entre Drieu et Rigaud. Voilà. C'était vraiment un coup de foudre
bien
d'amitié.
Sûr.
Et en même temps, Drieu était quelqu'un de crispé, il adorait le malentendu. Drieu, il faisait même l'éloge du malentendu et il avait érigé ça en mode de vie, alors que Rigaud, c'était le contraire, c'était quelqu'un de nonchalant, désinvolte. Et en fait, Drieu jalousait beaucoup Rigaud. Il l'écrit d'ailleurs dans une lettre, hein. Oui. Même physiquement, il le trouvait beau, il le trouvait plus beau que lui, et dans une post-scriptum, il dit Rigaud resplendissant, Drieu calvitie lunettes.
Génial, ah, c'est magnifique. Et vous savez que l'histoire du Ciris est quand même bâtie là-dessus, hein, parce que même, je parle même des ce qu'on appelle les satellites. Vous avez Roger Vaillant, que vous ne citez pas dans votre livre, et je ferai une toute petite parenthèse.
Libertin au regard froid.
Bien sûr, Libertin au regard froid. Ouais. Et vous avez il était follement amoureux de Gilbert Lecomte. Hein.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Ouais. Mais vous savez que, petite parenthèse, effectivement, c'est le Vaillant, c'est le dandy. C'est le dandy à l'état pur. Il va écrire aussi un jeune homme seul. Et ce jeune homme seul était fasciné par la pauvreté. Donc il y a tout ça, ces gens-là se promènent avec des points communs.
Ah oui, alors il y avait de la... Puis il y avait ça aussi par rapport à l'écriture. Il y avait ça aussi, c'est-à-dire que Drieux n'a pas voulu reconnaître le talent.
Alors voilà,
c'est talent de Rigaud.
C'est pour ça que je vous dis, alors, est-ce qu'il lui rend vraiment service? Est-ce qu'il l'aime ou il veut le fusiller comme un amant?
C'est très ambigu.
Allez-y.
C'est très ambigu. C'est-à-dire que dans le premier texte, alors le premier texte qui fait connaître Jacques Rigaud à l'époque, c'est la valise vide, valise vide. C'est en 23.
Ah, c'est en 23.
C'est publié
d'accord.
en août 1923 dans la Nouvelle Revue française, et en fait c'est un portrait caricatural, un portrait à charge de Rigaud. Mais en même temps, c'est un portrait en creux de Drieux. C'est-à-dire qu'il y a du Drieux, il y a du Rigaud, il y a un peu de tout. Et déjà, il fait le portrait d'un jeune homme oisif, justement complètement désinvolte. Il y a des parts de vérité évidemment, mais en revanche, il dit qu'il n'a jamais lu, qu'il n'a jamais ouvert un livre, etc. C'est totalement faux. Rigaud était un grand lecteur.
Et pourquoi il fait ça? Alors, c'est un règlement de compte.
Portrait assassin. En même temps, c'est un hommage. Rigaud est blessé un peu, mais en fait, il est plutôt content d'être le héros d'une fiction. Donc, il s'en vantera d'ailleurs à New York.
Et ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier tome.
Il reste sur mon ami d'ailleurs.
Le problème, il est là.
Parce qu'en 24, il se retrouve à Guétari. Voilà. L'été 24, il passe l'été 24 ensemble.
Et c'est lui qui lui présente sa femme, l'américaine, etc. Donc c'est très intime tout ça. C'est très très intime.
Oui, et puis on sent que Drieux, moi dans les correspondances que j'ai retrouvées de Drieux, même quand Rigaud est aux États-Unis où il se voit plus, chaque fois Drieux demande des nouvelles de Rigaud à ses amis. Et Rigaud, il est où? Ah, il s'est marié. J'aimerais qu'il me présente ses filles. Enfin, il n'oubliera jamais Rigaud, même après la mort de Rigaud. Longtemps après la mort de Rigaud, il en parlera.
C'est un jeu, mais jusqu'au bout,
il fera le feu follet, évidemment.
C'est un jeu sadomaso.
C'est un peu je t'aime moi non plus.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. C'est un peu ça. Et Rigaud joue avec ça, parce qu'il aime bien l'ambiguïté aussi, Rigaud. Et même Drieux, il est cinglant quand même, parce que quand il va le voir à la clinique de Châtenay-Malabry du docteur Le Savoureux.
Ça, c'est la fin. Hein.
C'est la fin, en 29. Ouais. Il lui dit carrément, il y a encore des feuillets manuscrits sur la table de Rigaud qui continue d'écrire. Et il regarde ça, il lui dit, mais mon Dieu, vous ne pourrez jamais écrire, arrêtez d'écrire.
Il y a deux actes de la fusillade. C'est le premier, c'est la valise vide.
Exact.
Et il remet le couvert en quelle année?
Alors, en fait, il y a le cycle, ce qu'on appelle le cycle Rigaud chez Drieux. Il y a la valise vide, c'est en 23. Ensuite, il y a le feu follet, en 31, en 1931.
Ah, 31, voilà.
Après la mort de Rigaud. Et il y a un texte qui n'est pas publié, qui ne sera publié qu'en 1963, qui est une sorte de mea culpa assez émouvant. C'est Adieu à Gonzague.
Adieu à Gonzague.
Voilà. Et il écrit ce texte, en fait, quasiment après la mort, le lendemain de la mort de Rigaud. Il écrit ce texte, mea culpa, qu'il met dans un tiroir, dont il sera exhumé par le biographe de Drieux en 63 et sera publié chez Gallimard avec le feu follet en 63.
Donc ce qui a déclenché, c'est parallèle au film.
C'est ça, exactement. C'est en même temps que le film, ils ont sorti ça.
D'accord. Mais je ne suis pas un adepte de Papa Freud spécialement, et même pas du tout, là. Mais je dis qu'il y a quelque chose qui tient de... Alors, on peut appeler tout n'importe quoi, hein, de l'affect, du sexuel, du transfert, de tout ce qu'on voudra.
Oui.
C'est assez rare que, quand même qu'un auteur détruise comme ça un autre, un qui ne l'est pas, en fin de compte.
Alors oui, il y avait cette jalousie, cette envie, mais il ne s'en cachait pas, d'ailleurs, Drieux, finalement, hein, qui jalousait Rigaud. Peut-être jusqu'au point de le jalouser au niveau des écrits, d'ailleurs, parce que c'était l'antithèse de ce que Drieux écrivait, les textes de Rigaud. C'était des aphorismes, choses très courtes, de l'écriture fragmentaire. Alors que Drieux, c'est des choses assez épaisses, comme le roman Gilles, par exemple, qui fait 500 pages, c'est un pavé. Donc, c'est des romans psychologiques, etc.
Mais Drieux est entièrement immergé dans le mouvement surréaliste. Puisque même Aragon lui dédie son... Je crois que c'est le traité du style qui lui dédie. Il est vraiment là-dedans, dans le mouvement.
Alors, Drieux, il participe un peu au mouvement Dada.
Ouais. Hein.
Le surréalisme, après, pas vraiment.
Oui, alors j'ai mal tourné. Il est avec les gens qui vont devenir surréalistes. Voilà.
Exactement.
J'ai mal fait ma phrase, pardon.
Il fréquente les Dada, mais il est sympathisant, on va dire, du mouvement Dada. Il ne sera jamais dadaïste, hein, Drieux.
D'accord.
Il est sympathisant.
Et le paradoxe, c'est qu'il reproche, en fin de compte, dans votre livre, aux surréalistes d'être des fiefés littéraires. Des littérateurs.
Oui, oui. Alors ça, c'est Breton aussi. Breton disait, il ne faut pas écrire de romans. Et d'ailleurs, Philippe Soupeau a été exclu du surréalisme par Breton parce qu'il écrivait des romans. Donc, Arrigo, lui, est resté fidèle, en fait, au précepte de Breton, puisqu'il n'écrira jamais de romans. Hein, et il fera de l'écriture.
Le roman d'un jeune homme pauvre.
Oui,
ça fait trois pages. Faut le dire. Son roman fait trois pages.
Il se moque en même temps. C'est un peu une moquerie. C'est comme il adore ça, se moquer. Hein, en fait, c'est comme quand il collectionne les boîtes d'allumettes. Mm-hmm. Quand ses amis feront du commerce en art, lui, il va se moquer d'eux. Il va dire, mais moi, je vais collectionner des boîtes d'allumettes.
Avant qu'on poursuive, toute l'œuvre de Rigaud tient en combien de pages?
200 pages chez Gallimard à peu près, là j'ai le livre.
Vous l'avez. Donc ça c'est trouvable,
c'est
ça
268 pages.
C'est trouvable encore, ça.
Bien sûr, oui, c'est réédité.
Et quasiment tout est contenu là. Hein.
Oui, à peu près, à moins qu'il y ait des textes inédits qui ressurgissent
d'accord,
un jour
là,
ou l'autre.
À peu près tout est contenu.
C'est l'intégrale, c'est dans la collection blanche chez Gallimard.
D'accord. Donc il va rentrer dans ce mouvement dada, on le voit sur les photos, hein. On voit sur les photos, il est pendu à une échelle, etc. À un moment donné, on arrive à aux limites du mouvement dada, et là, il ne peut plus suivre.
Alors, en fait, il n'assiste pas à la fin de dada. Il préfère partir, quoi, en fait.
D'accord. Il est dans l'air des sommeils, des choses comme ça?
Je ne crois pas.
Non plus, on ne le trouve pas, non.
Non, il part à New York en novembre 1923.
Très tôt, hein, ouais.
Très tôt, donc dada est quasiment mourant, on va dire. Il ne participera pas aux obsèques. Il y a des inimitiés qui se créent, d'ailleurs, qui seront après des querelles qui dans le surréalisme également. Alors, là où il est très fort, Hugo, c'est qu'il arrive toujours, en fait, malgré tout, à garder l'amitié de tous. Il ne se fâchera avec personne, étrangement. Parce que tous se fâchent. Hein. Bon, dans le surréalisme, c'est encore pire. Mais lui, il est assez malin et assez intelligent. Et parce qu'il n'est pas engagé, en fait. Et il est plutôt dégagé. Hein. Donc, du coup, il se brouillera avec personne.
Qu'est-ce qu'il va le tirer? Donc, il va partir.
Il part à New York en 23.
Il est encore célibataire?
Il est encore célibataire parce qu'il rencontrera la riche américaine lors d'un voyage en 24 en France. La riche américaine qui vient divorcer à Paris. C'était très tendance à l'époque. Les Américains venaient divorcer à Paris. Et il la rencontrera en 24. Mais quand il arrive à New York en 23, il ne connaît pas grand monde. Il a un carnet d'adresse. Hein,
Et qu'est-ce qu'il fait à New York, là?
À New York, il va vivre dans une petite chambre misérable, dans le quartier, on va dire, étudiant américain à New York. Comment ça s'appelle, là où il y a l'Arche? Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce quartier. Washington, voilà. Square. Il vit là, c'est un quartier de poètes, de marginaux, d'écrivains, d'artistes. Et après, il publie dans une revue américaine d'avant-garde qui s'appelle Little Review. C'est la dernière publication qui est tenue par Margaret Anderson. Et après, c'est fini. Il ne publiera plus, c'est le silence éditorial définitif.
Oui, sa fameuse phrase, vous êtes tous des poètes, moi je suis du côté de la mort.
Exactement.
Il a dit bien avant de partir, vous savez pas, avant de partir, ou c'est une phrase de la fin, ça?
Alors ça, c'est une phrase, je pense, c'est une phrase avant, qui doit se situer pendant dada, je pense.
Ah, pendant dada, d'accord. Ouais. Le problème avec Rigaud, vous avez pas le nier, c'est son rapport à l'argent. Le rapport au riche, c'est quelqu'un qui est fasciné par le riche.
Moi, j'ai retrouvé un témoin qui m'avait dit...
On trouve ça chez Vaillant aussi, tiens, petite parenthèse. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais bon, chez beaucoup, hein, l'argent, c'était quand même un problème, même aujourd'hui d'ailleurs, chez les artistes, chez les écrivains. Drieu, lui, n'avait pas de problème avec ça. Il demandait de l'argent de façon très spontanée à ses femmes.
Ses familles, oui.
À ses maîtresses, etc. Il se faisait envoyer des chèques. J'ai retrouvé des lettres où il dit, voilà. Et Rigaud, lui, Breton avait dit, au lieu de faire du journalisme, Breton avait dit ça, hein, au lieu de faire du journalisme, perdre votre temps à faire du journalisme, vous feriez mieux d'épouser des femmes riches.
Vous savez qu'il y a une phrase terrible de Jean-Louis, je ne sais pas si vous situez Jean-Louis Brault, qui était un situationniste. C'est un texte qui s'appelle « À l'enterrement d'André Breton ». Il dit, tout en trouvant le bénéfice du surréalisme, il y aura toujours une odeur de cul à fric derrière les grands surréalistes.
Oui, bah d'ailleurs, certains dadaïstes en ont voulu à Jacques Rigaud d'avoir épousé une femme riche, hein, alors qu'il finalement il suivait.
Mais c'est pas riche, c'est très riche.
Ah,
c'est-à-dire, on en est.
Non, elle était. Je crois que j'aimais l'équivalent d'aujourd'hui, ce que possédait sa femme,
fait à chaque fois, oui.
C'est des millions d'euros. Hein.
Oui, c'est ça.
Donc, mais en même temps, il est dans la Rolls, mais à un moment, il se rend compte, il n'est pas dupe finalement parce que l'américaine, elle était séduite évidemment par le côté dandy, le côté français. Les Français étaient très à la mode à New York au début des années 20, surtout quand on venait de Dada. Il y avait quand même une sorte de charisme, on va dire. Et donc, elle a été séduite par Jacques Rigaud, qui était beau aussi, qui était très beau.
Ça c'est dit, oui, à chaque fois, oui.
Donc, il était très élégant, très beau. En plus, il parlait bien. Il avait, comme ça, elle avait une sorte de facilité. On arrivait, quand il ouvrait la bouche, tout le monde était bouche bée, quoi. C'était un peu ça. Donc, elle a été séduite. Mais puis, très rapidement, elle s'est rendue compte que, le personnage n'était pas facile à vivre.
Ça dure un an. Hein.
Ça dure pas longtemps, un an et demi, deux ans. Ils divorceront jamais, hein, d'ailleurs. Parce qu'elle... j'ai retrouvé une lettre d'elle, bien des années après la mort de Rigaud. Elle dit je tiens à qu'on m'appelle Madame Rigaud. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle reniera jamais son mari.
Il préfère saluer les Rolls-Royce que les enterrements.
C'est
une phrase magnifique.
C'est une phrase magnifique.
Donc il va revenir, et c'est là que ça va commencer à dégénérer, à son retour.
Oui, alors, sur l'argent aussi, il y a une belle phrase. Il n'était pas fait. Oui, Rigaud n'était pas fait. Je crois que c'est un témoin qui m'avait dit ça. Rigaud n'était pas fait pour gagner de l'argent, mais il était fait pour en dépenser.
Très bien. Mais vous avez vu ce paradoxe ? Il y a deux paradoxes. On va faire un tout petit bout d'Edgar Varèse, je te promets, Monique. Et puis on va poursuivre avec Jacques Rigaud. Ce paradoxe, c'est qu'il y a des écrivains, des hyper-littéraires comme Le Clésio, qui rendent hommage.
Oui, tout à fait.
Ah, Rigaud.
Ouais,
Rigaud n'a pas écrit grand-chose.
En fait, il y a une sorte de fascination pour le personnage, mais pour les écrits aussi, parce que je pense que les écrits sont... Il avait un talent inouï, quand même,
on est d'accord.
De l'aphorisme.
Enfin, de l'aphorisme, on est d'accord.
Il est un précurseur, même.
Bien sûr.
Hein, quand il écrit « Le jour se lève, ça vous apprendra », c'est magnifique.
Magnifique,
ça,
oui, bien sûr.
On a tous connu ce sentiment-là,
bien sûr.
Du jour qui se lève.
Il a écrit sur New York, c'est très beau, ce qu'il a écrit, vous le citez dans votre texte, c'est très très beau, sur New York.
Sur les camions de pompiers qui dévalent les rues.
Oui.
Moi,
je trouve que justement, il écrit très bien. Il écrit très bien, c'est magnifique. Et puis deuxième paradoxe, avant de s'en remettre à Edgar Varèse très très brièvement, c'est que le paradoxe, c'est qu'il meurt, si j'ai bien compris, hein, dans une maison hyper littéraire, celle de Chateaubriand.
Oui, l'ex-demeure de Chateaubriand à la Vallée aux Loups.
À la Vallée aux Loups, vous y avez été?
Oui, j'y suis allé, bien sûr.
C'est bien, non?
À Châtenay-Malabry.
Avec ses grands arbres.
C'est magnifique. Alors moi j'y suis allé, en plus, un peu, c'était la même époque, on va dire, que le suicide de Rigaud, c'est au mois d'octobre-novembre, et c'est assez sinistre, hein, avec ses grands arbres comme ça.
Il y a un hommage de Rigaud à faire là-bas, où il y a rien, il y a pas une...
Pas vraiment, non. Je crois qu'ils ont un peu... Ils savent, mais ils n'ont rien fait. Au moins, il n'y a pas de... Non.
Vous savez qu'au grand hôtel des Palmes à Palerme, où s'est suicidé
Roussel,
pendant longtemps, ils ont fait croire aux touristes qu'ils faisaient du monde entier que c'était la chambre de Roussel, avant que quelqu'un fasse vraiment une démarche, avant de s'apercevoir que ce n'était pas la bonne chambre. Hein. Voilà. Merci, Monique. J'ai pas vous faire souffrir en cabine comme ça au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, toujours avec préface Annie Lebrun, c'est bien sa préface. Jacques Rigaud, Le suicide est magnifique, et Jean-Luc Bitton. Alors Rigaud n'était rien. n'était rien, un homme sans consistance, un bellâtre de salon, un sermonnaire du néant, un diseur de mauvaises aventures, incapable d'accoucher d'une œuvre, paresseux, maussade, impécunier et profiteur, ce désenchanté pommadé, ce requin à monocle, petit maître dont les écrits étaient à peine publiables, il a tout dit, c'était rien. Qui a dit ça ?
Alors c'est un journaliste, je ne me rappelle
plus. Ah oui,
plus,
j'ai pas compris.
Je crois que c'est, je sais plus dans quel journal. Peut-être le Figaro. Je pense que c'était à l'époque de l'apparition des écrits comme ça. J'ai trouvé ça formidable ce texte. Quoi. C'est un hommage en fait.
Oui, c'est très bien. Alors il dit oui, c'est à retourner. C'est à retourner.
Il aurait adoré ça. Il aurait adoré ce portrait.
Donc on arrive, il revient en 25 à Paris, c'est ça ?
Non, alors il revient, il fait des allers-retours entre Paris et New York. Il reste longtemps. En 1924, il passe l'été à Guétari, donc avec Drieux, Aragon. Ils écrivent même un texte à quatre mains là, sur la terrasse du café Le Commerce, qui existe toujours d'ailleurs. Et avec Paul Chadourne, Drieux et Rigaud. Ensuite, il rentre à Paris, il repart à New York, il rencontre donc la Gladys Barber, la richissime américaine.
Ça, c'est venir
c'est à ce moment-là qu'il fait sa connaissance. Donc, il retourne aux États-Unis avec l'espoir, finalement, d'un mariage, on va dire, heureux. Et il reste quand même, il est dans ses immeubles pour célibataires à New York, où c'était des gratte-ciels comme ça, avec plein de chambres, où les gens venaient, les célibataires venaient... se loger, parce que pour qu'il rêvait d'une vie à New York, d'une nouvelle vie. Hein. Et lui, il partait pour ça, d'ailleurs. Il disait, je pars à New York pour faire du business. C'est comme Rimbaud partait faire du commerce.
Il y a un parallèle certain. Hein.
Et il avait vraiment des idées de business à New York, bon, évidemment, qui ne sont pas réalisées. Il avait son smoking dans sa valise, avec le chapeau de forme, etc., pour pénétrer le milieu social, la high bohémia, comme on disait à l'époque. Et il réussit, d'ailleurs. Hein. Il rencontre la décoratrice d'intérieur Muriel Draper, qui est la décoratrice de tout New York. Et après, il va à Long Island, dans leur maison, etc.
C'est une revanche par rapport à la petite bourgeoisie de ses origines aussi.
Complètement.
Hein.
Complètement. Là, il est en dehors de la petite bourgeoisie d'où il vient. Quoi.
Donc, il va rencontrer cette riche américaine qui a déjà deux enfants.
Quatre enfants.
Elle a quatre enfants.
Ah oui, il a quatre enfants.
Ils sont nés en 25, ces enfants, environ, non ?
Ah, ils sont nés au début des années... non, ils sont tous nés quand Rigaud... Ils sont déjà assez âgés, même.
Hein. Ah bon,
d'accord. Les petites filles, elles ont... Il y a une petite fille qui a 11 ans, d'ailleurs, que Martin Kay avait retrouvée. Moi, j'ai trouvé l'arrière-petite-fille, moi.
D'accord. Est-ce qu'ils ont su qui était Rigaud ou pas ? C'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'ils ont su qui était Rigaud ou pas ? Ou c'est quelque chose qui est passé, comme ça
Alors, ils ont su, quand même, parce que moi, j'ai retrouvé l'arrière-petite-fille de Gladys Barber à New York. Elle était très impressionnée, parce qu'elle connaissait plus ou moins l'histoire de la famille, mais que ce personnage soit aussi connu en France, etc., elle était très curieuse.
Elle savait. D'accord.
Elle ne savait pas tout, hein. Je lui ai apporté beaucoup d'informations.
D'accord. Mais vous savez qu'il y a un participant allemand de Dada qui est parti après la guerre, il est parti au Texas, un truc comme ça, il s'est fait cow-boy. Ouais. Il s'est fait avec des vaches, les chevaux, etc. Puis un jour, il y a un jeune étudiant qui faisait une thèse sur Dada, j'ai oublié son nom, hein, qui est parti, qui lui a dit, vous savez, Dada, etc. Le type est passé à côté de tout ça.
Ouais.
Il a dit, quoi, c'est quoi ça ? J'en sais fichtrement rien. Tout à l'heure, on parlait de l'Ecclésio, des écrivains qui avaient reconnu ça. Il y a Camus.
Oui, Camus, qui en parle dans L'Homme révolté.
Révolté.
Ben oui, ben Camus a beaucoup...
Il est sur
le suicide. Donc forcément, il avait lu Jacques Rigaud. Hein. Il lui rend hommage, d'ailleurs. Il y a Camus, il y a Julien Gracq aussi.
Julien Gracq. C'est pour ça que tous les hyper-littéraires...
Complètement.
Pas tous, mais des hyper-littéraires, se rendent hommage à Rigaud.
C'est vrai. C'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs.
Donc on va rentrer dans une période qui va être beaucoup moins heureuse, puisque ça va être comme là ouvertement la destruction.
Alors, en fait, il découvre. Donc, je pense que le mariage vacille à cause des frasques de Rigaud. Alors, ils se droguaient tous à l'époque, l'opium et tout ça, à Paris, dans les années 20, Cocteau. Bon, il y avait milliers de fumeries d'opium à Paris. Mais l'héroïne n'existait pas encore à Paris. L'héroïne arrivera à la fin des années 20. Et à New York, en revanche, l'héroïne est déjà présente. Harlem, les jazz, dans le milieu du jazz, etc., musiciens de jazz, tournent tous à l'héros. Hein. Et Et justement, la high bohémia new-yorkaise adorait aller s'encanailler à Harlem dans les clubs de jazz. Et je pense que Rigaud, très probablement, a découvert l'héroïne à New York.
C'est ça.
Et d'ailleurs, il revient à Paris avec de l'héroïne qu'il offre d'ailleurs, et que tout d'un coup, c'est le produit que les gens ne connaissaient pas.
Donc, petite parenthèse, Jean-Luc, tout ça va très vite. Il y a aussi le mythe, puisqu'on parle des dandys, mais il y a aussi Paul Morand, etc. C'est le mythe de l'homme pressé, c'est-à-dire que tout ça va se dérouler, ça chute, on va appeler ça sa chute, on va mettre 24, 25 à 29, il y a 4 ans de chute.
Oui, alors il se marie en 26 quand même.
Il se marie en 26.
D'accord. Il se marie en 26, et je pense...
C'est encore plus rapide alors sa chute.
Oui, oui alors, en 27, là c'est vrai qu'il y a quand même de l'eau dans le gaz, on va dire... je pense qu'il se drogue beaucoup. Hein. Sa femme est effrayée, en fait, parce qu'elle ne sait pas comment faire. Elle est complètement désarmée devant ça. Et puis, elle se dit, mais il va me bouffer le capital.
Et la chute de... Et ça, c'est peut-être le reproche que je ferai à votre livre, c'est que ce début de la chute, 26-27, c'est le moment où les surréalistes, qui l'a connu, se tournent quand même vers le politique.
Oui, c'est vrai.
Voilà,
la politique et la psychanalyse aussi.
La psychanalyse, voilà.
Les deux.
Ouais. Ce que lui va quand même nier.
Exactement.
Bien qu'il va être aux mains d'un psychiatre après, hein, faut pas croire.
Oui, alors c'était pas un psychiatre, c'était une sorte de médecin. Enfin, il était psychiatre, hein, docteur Le Savoureux, mais il écoutait. Malheureusement, j'ai pas retrouvé hein, le dossier de santé de la Vallée-Houlou de Rigaud, mais ça aurait été intéressant d'ailleurs de savoir ce que pensait de Rigaud le docteur Le Savoureux. Mais face au surréalisme,
il y a pas de preuve, il y a pas de minute, il y a rien de tout ça qui est demeuré.
Non, j'ai retrouvé quelques photos dans les archives, j'ai retrouvé des textes inédits de Rigaud quand même. D'accord. Dans les archives de la Vallée-Houlou que je publie dans la biographie, qui sont assez, qui sont bouleversants. Hein, c'est la fin, donc on sent vraiment que là il est complètement désespéré. Par rapport au surréalisme, en fait, il a gardé contact avec tous les surréalistes. Hein. Quand il revient à Paris, il voit Picabia, il va voir Breton, Rue Fontaine, il continue de les voir. Hein. Il ne s'est pas brouillé avec eux. Hein. Il rencontre mes marteaux à un moment, parce qu'il dit... Il est chez Breton, et il dit, mais c'est qui ce... Il demande, je ne sais plus, à Pierre de Massot, je ne sais qui. Il demande, c'est qui le type là qui part là, avec un accent marseillais. Il dit, mais c'est Artaud. Et donc, il a conservé cette amitié-là, de tous. Et lui ne participe pas. Enfin, il participe de loin. Il a dû faire 2-3 réunions avec les surréalistes, mais ça ne l'intéresse pas.
Mais les surréalistes vont être marqués par ce qui s'est passé en 17, comme toute la pensée socialiste, même de droite, en URSS. Hein. Et lui, sa fin correspond à la chute du capitalisme aux États-Unis.
C'est vrai, c'est vrai que le crack boursier a lieu en octobre.
Il y a un parallèle.
Il se suicide en novembre, hein, puis c'est pas le seul.
Il se suicide en novembre, voilà.
Il se suicide le 5 novembre 1929.
Hein. Et le crack, c'est ça correspond à peu près.
Non, il est né le 6 novembre 1929. D'accord. Le crack boursier, c'est... c'est au mois d'octobre.
C'est vraiment corollaire.
Ah oui, complètement.
Corollaire, oui. Et vous voyez un lien ou pas?
Forcément, là, après, il paraît qu'il y avait un télégramme de sa femme qui aurait été mal compris. C'est Drieux qui dit ça à l'abbé Munier, dans les mémoires de l'abbé Munier, qui raconte ça, qu'il aurait reçu un télégramme de New York, écrit par sa femme, et qui l'aurait mal compris. Il aurait mal compris le sens du télégramme, ce qui aurait été un élément déclencheur du suicide. C'est Drieux qui raconte ça. Je pense que le télégramme a vraiment existé, je ne l'ai pas retrouvé malheureusement, mais après que Drieux donne son interprétation, on ne sait pas. On sait rien.
Petite parenthèse vite fait, là, avant qu'on continue sur la fin, qui est quand même pitoyable, moi je la trouve pitoyable la fin. Héroïque, mais pitoyable. Vous voyez, je ne sais pas si on peut parler comme ça. Là. Il va être aux prises avec un ex qui s'appelle Drieux, qui est l'ambiguïté par excellence. Qui est l'ambiguïté sexuelle, qui est l'ambiguïté politique, parce que Drieux va virer très, très rapidement, puisque là, on est en 29, 5 ans plus tard, il est passé de l'autre côté. Hein.
Voilà. Oui, il ne connaîtra pas le Drieux politique, Rigaud, en fait. Hein.
Il avait pu sentir qu'il y avait une ambiguïté terrible chez Drieux.
Ah ben, je pense qu'il se moquait de cette personnalité-là de Drieux, d'ailleurs, de son malentendu, du malentendu que Drieux avait érigé en mode de vie. Hein. Donc, il s'en moquait totalement, Rigaud, et il jouait avec ça, même. Il le provoquait, je pense. Hein. Donc, après, c'était un jeu, c'était le chat et la souris, tous les deux, mais...
Vous savez qu'il y a une phrase terrible de Drieux où il dit, quand ça va très très mal, déjà son suicide à Drieux est catastrophique, je ne sais pas si vous savez, il met 3-4 fois, 2-3 fois un truc comme ça, mais il y a une phrase terrible, il dit justement, ce qui m'a plu chez les nazis, chez les Allemands, ça, c'est ce qui me plaît maintenant chez les staliniens. Mmh. Il est prêt à tout de suite, sans transition, à passer de l'autre côté. Ouais. Et vous savez quand même, dans sa position de Drieux, vous le savez, je pense que c'est sous-entendu, là. Il écrit à Malraux, mais il est prêt à rejoindre Malraux sur le front de l'Est.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc il est constamment en état d'ambiguïté et de... Voilà.
C'est ce qui le rend attachant aussi, Drieux. C'est
terrible, ça.
Cette ambiguïté.
Ouais.
Parce que dans son journal, c'est la fin de sa vie, le journal de Drieux. Et on sent toutes les lignes, il y a un côté comme ça, quoi. Et le suicide, il n'avait plus le choix, c'était le suicide.
Il y a une identique pulsion de mort chez les deux.
Alors, Drieux se suicide. Pourquoi Drieux se suicide? Parce qu'il n'a pas envie d'être jugé par les hommes, en fait. Hein.
Ouais, voilà,
c'est
oui,
ça. Monsieur. Donc, Rigaud, c'est différent. Rigaud, c'est un suicide, on va dire, presque métaphysique, puisque toute son œuvre tourne autour du suicide. Et tout le monde se moquait un peu de lui, d'ailleurs. Et à un moment, on dit « Ah, mais Rigaud, c'est pas encore suicidé. » Ou Aragon a écrit dans Traité du style sur les procrastinateurs du suicide. Il cite pas Rigaud, mais je pense qu'il pense à lui.
Mais au niveau du style, justement, Rigaud, il est net, son suicide. C'est une balle dans le cœur.
Ah, complètement. Puis il est méthodique.
C'est
Rigaud
ça.
Était quelqu'un de très méthodique, voilà. De toute façon. Une rigueur mathématique, presque. Hein. Donc, il se fait sa toilette, il se rase, il se couche et il prend une règle pour mesurer l'emplacement du cœur.
Allez-y, oui, c'est ça, c'est très... Ça.
Il cale ses pieds contre le lit pour pas que la balle soit déviée. Et il sait, parce qu'il sait qu'il ne faut pas se rater, parce que sinon on agonise pendant des heures. Donc, il a réussi. C'est un suicide réussi.
C'est un suicide réussi. Mais avant, ce qu'on va appeler la période qui va avant, la chute, c'est celle du feu follet. C'est-à-dire que c'est une période de la vie qui n'est pas terrible, entre guillemets.
Oui.
C'est une dérance d'alcool, de drogue, de toc-toc chez les amis, on n'en veut pas, etc., etc.
Oui, à la fin, oui, c'était ça, quoi, à la fin de sa vie. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la dernière nuit, il la passe avec Jacques Porel. Mmh. Et sa femme, la femme de Jacques Porel, ils passent une nuit blanche, ils vont au théâtre, enfin, ils font une soirée normale, quoi, complètement normale. Ils vont dans la boîte de Cocteau, le Grand Écart, à 2h, 3h du matin. Porel lui propose de le ramener à la Vallée aux Loups. Rigaud refuse, en prétextant qu'il a un rendez-vous avec Marcel Herrand, le comédien Marcel Herrand.
Magnifique. Qui tirait dur sur les produits. Lui
qui
aussi,
jouait le rôle de Lassner dans Les Enfants du Paradis. Oui. Et il avait donc, la dernière chose qu'on sait de Rigaud, c'est qu'il a rendez-vous avec Marcel Herrand.
D'accord. Lassner, personnage cynique. Est-ce qu'il y a du cynisme chez Rigaud?
Oui, bien sûr, il y a du cynisme. Évidemment, c'est un personnage très cynique. Tout ce qu'il écrit, c'est... Ouais. Il a érigé le cynisme.
Mais là, en vous lisant, en retrouvant Marcel Herrand, la voix de Marcel Herrand, magnifique, et le personnage de Lassner, je me disais, mais c'est une hyper-cohérence.
Oui, c'est beau, comme le dernier rendez-vous est magnifique.
Mais c'est Marcel une hyper-cohérence.
Alors, Marcel Herrand n'était pas dans les drogues, hein. Lui, c'était plutôt l'alcool, le whisky. Parce que j'ai enquêté un peu justement pour savoir si Marcel Herrand était aussi dans la toxicomanie. Et en fait, non, il était dans l'alcool et il buvait beaucoup.
Et comment il réagit, ses anciens camarades dadaïstes et,
Ils sont choqués. Parce qu'en fait, ils étaient tellement habitués à... Le Rigaud et suicide, ça faisait vraiment, c'était complémentaire, quoi. Donc, ils disaient, mais jamais il suicidera, comme ceux qui en parlent en font le moins. Donc, pour eux, ils ont été choqués qu'en fait, apprendre le suicide... C'était brutal, quoi. Du jour au lendemain, sans prévenir. Il les avait prévenus depuis longtemps, mais...
C'est le seul qui n'a pas répondu à l'enquête sur le suicide, d'ailleurs.
Alors, il l'a répondu, c'est vrai, dans l'an 1925, c'est dans cette enquête sur le suicide, il répond pas, mais je sais même pas si on lui demande, en fait, parce que lui, il est déjà à New York, donc... Mais il avait déjà répondu, en fait. Il avait déjà répondu. Le suicide doit être une vocation.
Qu'est-ce qu'on écrit après Rigaud?
Après Rigaud, ben là, je travaille actuellement sur un autre écrivain qui est un peu culte aussi,
ouais.
Qui est plus contemporain puisqu'il est mort en 2003, c'est l'écrivain Frédéric Berthet, ouais. Qui a écrit un roman culte qui s'appelle « Daimler s'en va ». Et qui a eu un destin aussi un peu tragique aussi.
On va se quitter, on va faire souffrir Monique une dernière fois avec un tout petit peu de Varèse, et puis nous on va récapituler par rapport, et surtout avec comment on peut lire Rigaud et partir à sa découverte, outre la biographie. Tout petit peu, merci. Vous voyez, Monique, que c'est audible, Edgar Varèse. Qu'est-ce que vous me racontez ? Il n'y a pas de raison de vivre, mais il n'y a pas de raison de mourir non plus. La seule façon qu'il nous soit laissé de témoigner notre dédain de la vie, c'est de l'accepter. La vie ne vaut pas qu'on se donne la peine de la quitter. C'est bien commode le suicide. Je ne cesse pas d'y penser, c'est trop commode. Je ne me suis pas tué. Un grand regret subsiste. On ne voudrait pas partir avant de s'être compromis. On voudrait, en sortant, entraîner avec soi Notre-Dame, l'amour ou la République. Magnifique, non ?
C'est superbe.
Ah, c'est film. Bah oui, ça c'est... Voilà.
Tout rigoué dans ce paragraphe.
Oui, bien sûr.
La contradiction, l'oxymore, le sans arrêt.
Alors, pour les collectionneurs, on se le disait tout à l'heure en antenne, c'est Jacques Rigaud, agent général du suicide. C'est une espèce de patchwork qu'a fait Eric Losfeld. On s'est tout à l'heure aperçu que c'était en 67. Je ne sais pas si c'est trouvable aussi dans les collections.
On trouve, mais pas facilement quand même. On peut trouver d'autres florilèges de textes de Rigaud aujourd'hui. Par exemple, au 100 pages, l'éditeur 100 pages qui a publié un florilège des textes de Rigaud.
Je vais quand même vous engueuler très vertement. Quand vous vous êtes permis en fin d'ouvrage, j'ai arraché la page du livre, de parler de Renaud et de l'hommage qu'il fait à Rigaud en mêlant tous les poivrons de la terre, c'est-à-dire il y a Bernard Dimet, etc., que j'adore Bernard Dimet, moi, alors, etc. Voilà, ça ne tient pas debout. On n'est pas chez les poivrons de comptoir avec Rigaud.
Non, on n'est pas chez les poivrons, mais ça m'intéressait quand même que Renaud, quand même, un personnage comme ça, aussi populaire qu'il est. En plus, je parle de Daniel Darc juste avant, donc voilà, je veux dire aussi, il y a un chanteur très populaire, Renaud, qui a cité Rigaud dans une de ses chansons, Autour du poil.
Mes chers auditeurs, ce n'est pas l'amicale des joyeux poivrons que l'œuvre de Jacques Rigaud. Alors, Jacques Rigaud, le suicidé magnifique, préface d'Annie Lebrun. Ça vous a demandé 15 ans.
Oui, 15 ans de travail.
Bravo, voilà. Et puis donc, si on veut lire Rigaud dans le texte, il y a ce fameux livre-là.
Alors donc, chez Gallimard, dans la collection Blanche, écrit, une édition intégrale présentée par Martin Kay, qui fut le grand découvreur.
Il a fait un gros travail.
Ma biographie, je n'aurais jamais fait cette biographie sans Martin Kay.
Il est toujours vivant ?
Il est décédé malheureusement en 2007, mais
vous l'avez rencontré.
Et c'est lui qui m'a transmis, parce qu'à l'époque, il a rencontré au début des années 60 tous les surréalistes qui étaient encore vivants, et il m'a donné toutes ses notes, les interviews, etc. Donc c'est grâce à lui que je me suis lancé dans cette aventure.
Alors, Rigaud, c'est un thriller. Là, Annie Lebrun a raison, c'est une forme de thriller. C'est haletant, sa vie.
Complètement.
Quelqu'un qui est mort, c'est une mort haletante. Voilà, c'est le paradoxe de Rigaud. Il n'est pas un paradoxe près, remarquez. Merci, Monique, c'était un plaisir. Merci Jean-Luc.
Merci à vous.
Voilà.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Comme l'écœurement suprême, crachant mes adieux à Paris. Et me voici, ma bonne femme. Oui, foutu comme 4 sous, mon linge est sale aussi, mon homme. Et me voilà chez nous. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive. Au bon moment. Voici ce linge goûte à maintes et maintes fois un vin amer où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise, les mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise gris, rose et lilas. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Au fond du cuvier où l'on sème, parmi l'eau, la cendre du four, et tout mon linge de bohème repose durant tout un jour. Et qu'enfin mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Mauvais gars arrive au bon moment. Tout comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau, quand je t'aurais conté ma vie malheureuse d'affreux salaud, ainsi qu'on rince à la fontaine le linge au sortir du cuvier, mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure revit. Ton mauvais gars arrive au bon moment.
Vêtement suprême, de mode toujours, c'est toi Mais lorsqu'elle a pris place à côté de moi, l'humble serre de sa beauté qu'il est divin et mieux mon bonheur a bousculé le linge et l'honneur. Vêtement suprême de mode toujours, c'est toi seul que j'aime de tous ces atours. Vêtement suprême de mode toujours, c'est toi seul que j'aime de tous ces atours. Vêtement suprême de mode toujours, c'est toi seul que j'aime de tous ces atours. Vêtement suprême de mode toujours, c'est toi seul que j'aime de tous ces atours. Vêtement suprême de mode toujours, c'est toi seul que j'aime.
Pas besoin d'être devin, ni de tirer les tarots pour deviner d'où je viens. Nougaro, et si je compte mes pieds, si je joue les Figaro, c'est pour suivre tes voiliers. Nougaro, quand la pluie fait des claquettes et qu'elle frappe au carreau, j'ai tes chansons dans la tête. Nougaro, Claudie Claudeau qui se promène en ma chanson Livaro, un soir au bord de la Seine, c'est Nougaro. Pour apaiser mes fringales dans une oreille Al-Jaro et dans l'autre tes cigales, Nougaro. Mais tu sais, c'est pas facile, au cou j'ai comme un garrot quand je veux chanter Cécile, Nougaro. Et le soir si je m'obstine à me mettre un peu noiro, c'est pas pour Marie-Christine, Nougaro. C'est pour avoir les atomes bien inspirés et voir haut, fond de mon verre ton fantôme, Nougaro. D'être devin, ni de tirer les tarots pour deviner d'où je viens, Nougaro. Et si jamais je termine ma vie derrière les barreaux, ce sera en chantant Sing Sing, Nougaro. Ce sera en chantant Sing Sing, Nougaro. Nougaro. Il serait temps que l'homme s'aime, depuis qu'il sème son malheur. Il serait temps que l'homme s'aime, il serait temps, il serait l'heure. Il serait temps que l'homme meure, avec un matin dans le cœur. Il serait temps que l'homme pleure, le diamant des jours meilleurs. Assez, assez, crient les gorilles, c'est assez. Arrêtez votre humanerie. Assez, assez, crient les déserts et les glaciers. Crient les épineux hérissées. Déclouez votre Jésus-Christ. Assez, suffit. Il serait temps que l'homme règne sur le grand vitrail de son front. Depuis les siècles noirs qu'il saigne sur les barbelés de ses fronts. Il serait temps que l'homme arrive sans l'ombre avec lui de la peur. Et dans sa bouche la salive de son appétit de terreur. Assez, assez, dans la prairie, crie le granit, crie le cabri. Assez, assez, crie la petite fille en flamme dans son dimanche de la palme. Éteignez-moi, je vous en prie. L'homme s'aime, c'est peu dire. C'est là mon pauvre labeur. Je le dis à vos poils à frire, moi le petit soldat de beurre. Que l'homme s'aime, c'est ne dire qu'une parole rebattue. Et sur ma dérisoire lyre, voyez déjà, elle sait tout. Mais voici que dans le silence s'élève encore l'immense cri. Délivrez-nous de vos démences, crie l'éléphant, crie le cri-cri. Crie le sel, le cristal, le riz. Crie les forêts, le colibri. Les clématites et les pensées. Le chien jeté dans le fossé. La colombe cadenassée. Cette transe, expatriez votre souffrance, crie les sépulcres et les nids, assez. Assez. Fini.
Tu revenais, Cassandre, arrivé aujourd'hui en France, annoncé les catastrophes, les maux de la vie. Tu ferais un malheur, tu ferais un malheur, tu ferais un malheur, tu ferais un malheur. Partout, t'aurais un succès fou. Tu serais la coqueluche des branches et de la terre. Aujourd'hui on chérit ceux qui annoncent l'horreur. Près de toi Zemmour et Finky seraient des amateurs. Tu installerais la paix. Si tu revenais, Cassandre, arrivé aujourd'hui en France, annoncer les catastrophes, les maux de la vie. Oh, tu ferais un malheur, tu ferais un malheur, tu ferais un malheur, tu ferais un malheur. Et quand ils se disent, les urbains, les dandises, toi aussi tu détestes la vie. Ils font l'autodafé de nous, nous sommes tant aimés. Nous voulions changer le monde, c'est le monde qui nous a changé. Jamais on changera le monde. Si tu revenais, Cassandre, arrivé aujourd'hui en France, annoncer les catastrophes, les maux de la vie. Tu ferais un malheur, tu ferais un malheur, yeah, tu ferais un malheur. Je veux y croire encore, je rame, je fais les efforts, mais on nous bourre le mou, laisse tomber, sont trop forts. Les banquiers capitaux, les chorégraphes de nos gesticulations tristes, ce sont de vrais artistes. Sortir de la piste. Si tu revenais, Cassandre, alors partout tu ferais un tabac. Tu remplirais les zéniths et les sports, les palais, et les Alhambra et les Apollo, et les Carnegie Hall. Ah non, mais les stades de New York, les stades de France, partout, les totales, tu ferais un truc énorme, tu sais.
Thank you.
j'adore.
On gère le manque d'air, les crises de nerfs, nos amitiés, nos corps aux pieds. On gère tous les efforts de notre corps, nos pleins d'essence et nos absences. On gère. Voilà que s'insinue le vocabulaire des hommes d'affaires dans nos mots ingénus. On gère nos plans de carrière et nos horaires, nos traits d'humeur et nos tumeurs. On gère tous les devis de notre vie, on paie comptant son stock de temps. On gère, on digère comme on peut, se parler fiable d'experts comptables. On se dit que c'est ce qu'il y a de mieux. On gère la situation de nos relations alors qu'on erre sans aucun repère. On gère nos petites envies et nos avis, on croit qu'on pense mais on compense. On gère. Et moi, il y a des jours où je me dis que nous deux, on pourrait aussi se mettre à gérer comme des valeurs tous nos petits excédents de bonheur, au lieu de flamber par tous les bouts et de consommer plus que notre part. Garder un petit peu notre amour sous les draps, au fond d'une armoire. On a bien de quoi mettre de côté, on pourrait regarder fructifier nos petites économies de caresses dans leur plan épargne tendresse, se constituant en cas de besoin pour le jour où on s'aimera moins, un capital de sympathie pour s'accorder quelques crédits, se constituant en cas de besoin pour le jour où on s'aimera moins, un capital de sympathie pour quand viendra la pénurie d'amour.